Première épître de Jean, chapitre 3.
Lecture de la parole. Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité. Et vous savez que lui a été manifesté afin qu'il ôtât nos péchés, et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu ni ne l'a pas connu. Enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement le diable pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. Par ceci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. Car c'est ici le message que vous avez entendu dès le commencement, savoir que nous nous aimions l'un l'autre, non comme Caïn était du méchant et tua son frère. Et pour quelle raison le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Par ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous, et nous devons laisser nos vies pour les frères. Mais celui qui a les biens de ce monde, et qui voit son frère dans le besoin, et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Enfants, n'aimons pas de paroles ni de langue, mais en action et en vérité. Et par ceci nous saurons que nous sommes de la vérité, et nous assurerons nos cœurs devant lui, que, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il sait toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance envers Dieu, et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous pratiquons les choses qui sont agréables devant lui. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions l'un l'autre selon qu'il nous en a donné le commandement. Et celui qui garde ses commandements demeure en lui, et lui en cet homme, et par ceci nous savons qu'il demeure en nous, savoir par l'Esprit qu'il nous a donné.
Lecture de l'étude. Le verset 28 du chapitre 2 constitue un court paragraphe en lui-même, et le chapitre aurait très bien pu s'arrêter là. Le verset 29 est le début d'un nouveau paragraphe qui va jusqu'au verset 3 du chapitre 3. L'exposé de l'apôtre en étant arrivé à ce point, quelqu'un aurait bien pu demander « Mais qui sont les enfants de Dieu ? Comment peut-on les distinguer précisément de ceux qui ne le sont pas ?» La réponse donnée ici est que ceux qui sont nés de Dieu sont les enfants de Dieu, et qu'on peut les reconnaître par le fait qu'ils pratiquent la justice. Pratiquer désigne quelque chose d'habituel et de caractéristique. Ce n'est pas qu'ils pratiquent la justice de temps à autre, mais ils la pratiquent régulièrement dans leur vie. À cet égard, ils sont loin d'être parfaits, un seul l'a été. Mais, étant né de Dieu, il possède nécessairement sa nature. Or, Dieu est juste, nous le savons bien. Alors, ceux qui sont nés de lui sont nécessairement caractérisés par la justice. Il ne pourrait en être autrement. Ainsi, lorsque nous voyons quelqu'un pratiquer réellement la justice, nous pouvons être sûrs qu'il s'agit d'un véritable enfant de Dieu. La pratique de la justice est quelque chose qui va très loin. Cela commence à l'égard de Dieu, auquel nous avons à rendre ce qui lui est dû. Ensuite, nous pouvons envisager de rendre à ceux qui nous entourent ce qui leur est dû. Il ne peut être dit d'aucun inconverti qu'il pratique la justice, parce qu'un tel homme n'en a jamais réalisé le premier élément. Il ne pratique pas ce qui est juste à l'égard de Dieu. Nous connaissons Dieu. Il est juste. Voilà que nous rencontrons quelqu'un qui pratique la justice. Nous ne nous trompons pas en le considérant comme étant né de Dieu. Il appartient à la famille divine. Mais alors, quel amour merveilleux est placé devant nous, celui du Père lui-même. Jean utilise ici le mot « enfant » plutôt que « fils ». C'est un terme plus intime. L'Écriture parle des êtres angéliques comme étant fils de Dieu, et toutes choses sont de lui comme étant les œuvres de ses mains. Mais pour être ses enfants, nous devons être nés de lui. C'est quelque chose de plus profond aussi bien que de plus intime, et nous pouvons bien nous émerveiller devant cet amour du Père qui nous a accordé une telle grâce. Nous avons été introduits dans cette nouvelle relation par l'acte même de Dieu, opéré au-dedans de nous par la puissance du Saint-Esprit. Il aurait pu lui plaire, en nous sauvant, de nous introduire dans une relation avec lui bien inférieure à celle-là. Mais non, c'est cela que son amour a voulu faire. Mais si, d'une part, le fait d'avoir été engendré de lui nous a liés à lui dans cette nouvelle relation, ce fait nous a, d'autre part, fondamentalement séparés du monde. Lorsque Christ était ici-bas, le monde ne l'a ni connu ni compris. Et il en a été de même en ce qui concerne son Père. C'est parce que, dans son origine et dans son caractère, il faisait le plus grand contraste avec les hommes. Il leur dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Jean 8, verset 23. Et lorsqu'ils prétendent que Dieu est leur Père, il leur répond « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. » Verset 42. L'obstacle, c'était qu'ils ne possédaient pas la nature qui leur aurait permis de connaître ou de comprendre Christ. Or, par la grâce de Dieu, nous possédons une nature qui le connaît et qui l'aime. Et pour cette raison même, nous non plus, nous ne sommes ni connus ni compris du monde. Il doit en être ainsi. C'est dans la nature même des choses. La place d'enfant nous appartient maintenant. Et quant à l'amour du Père, qui est caractéristique de cette relation, nous en sommes les objets maintenant. Mais il y a ce que nous attendons. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais cela va l'être lorsque Christ apparaîtra. Quand il sera manifesté dans sa gloire, nous ne serons pas seulement avec lui, mais comme lui, car nous allons le voir comme il est. Le monde le verra en ce jour-là, revêtu de sa majesté et de sa puissance. Il le verra dans ses gloires officielles. Nous le verrons dans ses gloires personnelles, qui sont plus intimes. Les rois de ce monde se présentent à leur peuple dans leur apparat officiel lors des cérémonies publiques, mais les membres de la famille royale les voient en privé comme ils sont. Or nous devons lui être semblables pour le voir comme il est. Ce n'est que portant l'image de celui qui est céleste que nous pourrons nous trouver dans les parvis célestes et le contempler de cette manière intime. Nous allons effectivement lui être semblables. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont rien d'attrayant. ce sont souvent des gens pauvres et méprisés. En automne, nous pouvons voir des chenilles sans apparence se traînant lentement dans les orties. Ce qu'elles vont être bientôt n'apparaît pas encore. Mais attendez l'été qui suit, et elles deviendront de superbes papillons. De la même manière, nous serons transformés à l'image de Christ au jour de sa manifestation. Nous serons vus alors dans l'état qui est propre aux enfants de Dieu. Telle est notre espérance en Christ. En la considérant, nous découvrirons son caractère élevé et sa puissance purificatrice. Si nous avons ainsi une haute et sainte destinée, il ne nous est pas possible d'accepter les souillures de ce monde, que ce soit au-dedans ou au-dehors de nous. Ayant une telle espérance devant nous, nous prendrons garde à nous purifier nous-mêmes. Nous pourrions nous accommoder des souillures si ces choses n'étaient pour nous que des notions théoriques, mais nous ne le pouvons pas si elles sont une espérance réelle. Si la flamme de cette espérance brûle dans nos cœurs, nous nous purifions nécessairement, et ceci continuera aussi longtemps que nous serons sur la terre, le niveau de la pureté étant comme lui est pur. Dans la scène de la transfiguration, les vêtements de Jésus sont devenus d'une extrême blancheur, comme la neige, tel qu'il n'y a point de foulon sur la terre qui puisse ainsi blanchir. Marc 9, verset 3. Nous pouvons en tirer une application pour nous. Aucun foulon sur la terre ne peut nous blanchir à ce niveau. Nous ne l'atteindrons que lorsque nous serons semblables à Christ dans la gloire. En passant du verset 3 au verset 4, nous constatons un changement abrupt. Il vient de nous être dit que nous pouvons reconnaître ceux qui sont véritablement enfants de Dieu par leur pratique de la justice. Maintenant, il nous faut voir le contraste complet qu'il y a entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. D'un point de vue moral et spirituel, il y a sur la terre deux familles bien distinctes. Elles sont même diamétralement opposées. Elles ne peuvent être ni confondues ni mélangées, bien que quelqu'un puisse être transféré de l'une à l'autre par un acte de Dieu lorsqu'il est engendré de lui. Mais tout d'abord, la vraie nature du péché doit être dévoilée. Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité. Et le péché est l'iniquité, verset 4. Le caractère du péché mis en évidence ici, l'iniquité, c'est bien autre chose que la transgression de la loi. Si c'était cela, il n'y aurait eu aucun péché commis dans le monde depuis Adam jusqu'à Moïse. Voir Romains 5, versets 13 et 14.
Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Mais la mort régna depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui ne péchèrent pas selon la ressemblance de la transgression d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir.
Mais le péché est quelque chose de plus profond que cela, car l'iniquité est le rejet, la répudiation de toute loi, pas seulement la désobéissance à une loi qui a été donnée. Si les planètes qui tournent autour de notre soleil devaient soudain répudier toute loi, le système solaire serait détruit. L'iniquité parmi les créatures intelligentes, formées par les mains de Dieu, conduit également au chaos. Elle est destructive de son ordre et de son gouvernement moral. Voilà pourquoi le péché est odieux pour Dieu et qu'il ne peut durer indéfiniment. C'est pourquoi Christ a été manifesté, lui de qui le péché était totalement absent, afin qu'il ôtât nos péchés. Le verset 5 dit simplement qu'il a été manifesté pour ôter nos péchés, les péchés des enfants de Dieu. Nos péchés ne constituent qu'une partie d'un tout, et c'est la partie qui est mentionnée ici. Car le point important est que les enfants de Dieu ont été tirés hors de l'iniquité qui les caractérisait et amenés à l'obéissance. Celui en qui il n'y a pas de péché a été manifesté. Et il en est résulté qu'il a ôté nos péchés, afin que nous demeurions en lui, et que nous ne péchions pas. Le verset 6 présente le contraste d'un point de vue abstrait, et doit être lu en relation avec le verset 4. Ainsi, péché a le sens de pratiquer l'iniquité. Les enfants de Dieu sont caractérisés par ceci, ils demeurent en celui qui a été manifesté pour ôter leur iniquité, et par conséquent, étant conduits par lui, ils ne pratiquent pas l'iniquité. Et inversement, celui qui pratique l'iniquité ne l'a pas vu, ni ne l'a pas connu. La justice du verset 7 est en contraste avec l'iniquité du verset 6. Nous ne devons pas être trompés sur ce point, car l'arbre se reconnaît à son fruit. Bien sûr, la pensée peut aller de l'arbre au fruit, et on peut dire que celui qui est juste pratique la justice. Mais ici, la pensée va du fruit vers l'arbre, et Jean déclare que celui qui pratique la justice est juste, selon la justice de celui par qui il a été engendré. Tout cela est clair si nous relions ce verset avec le verset 29 du chapitre 2.
Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque pratique la justice est né de lui.
D'un autre côté, celui qui pratique l'iniquité n'est pas de Dieu. Il est du diable, puisqu'il exprime le caractère même de la source d'où il découle. Dès le commencement, le diable pêche. Il s'est livré à l'iniquité dès le départ. Et le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire ses œuvres. Ce que le diable a fait, en conduisant les hommes à l'iniquité, le Fils de Dieu est venu pour le défaire. Le verset 9 souligne ce qui vient d'être dit dans les versets 6 et 7, en le présentant d'une manière encore plus incisive. Aucun de ceux qui sont nés de Dieu ne pratique l'iniquité, et ceci pour une raison fondamentale. La semence divine demeure en lui, et ainsi, comme on est de Dieu, il ne peut pas pécher. Ce sont des affirmations de principe d'une grande force. Aucune déclaration ou explication qui atténue cette force ne doit être admise. Cependant, elles ont engendré beaucoup de difficultés dans bien des esprits. Deux remarques peuvent aider à résoudre ces difficultés. Premièrement, il s'agit pour nous de comprendre la force d'une affirmation abstraite. Lorsque nous parlons de cette façon, nous éliminons volontairement de nos esprits et de nos paroles toute considération restrictive, afin de présenter plus clairement la nature essentielle des choses dont nous parlons. Voici quelques illustrations très simples. Nous disons « le liège flotte, l'alcool intoxique, le feu brûle ». Par là, nous exprimons le caractère essentiel ou la nature de ces choses, sans nous attarder à considérer ce qui peut sembler le contredire en pratique. Par exemple, un jour où souffle une bise très froide, quelqu'un pourrait dire qu'il aimerait que son feu brûle vraiment, mais ceci ne diminue en rien l'affirmation abstraite que le feu brûle. Deuxièmement, il faut lire ce passage à la lumière du verset 4, qui en est comme la préface. On ne trouve pas de mention du péché depuis le verset 12 du chapitre 2 jusqu'au verset 4 du chapitre 3. Mais entre les versets 4 et 9, ce mot revient une dizaine de fois sous différentes formes, et au départ, le sens précis attaché au mot nous est donné. Le mot est ainsi défini pour nous, et il est important qu'il le soit correctement. Tout au long de ce passage, le sujet est la pratique de la justice, qui s'exprime dans l'obéissance, en contraste avec la pratique de l'iniquité, qui s'exprime dans la désobéissance. Au verset 9, celui qui est né de Dieu est considéré d'une manière abstraite. Si on le voit d'une autre manière, on le voit avec le péché en lui, et avec des péchés qui, s'ils sont commis, doivent être confessés et pardonnés, selon l'enseignement donné précédemment dans cette même épître. Chapitre 1, verset 8.
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous.
Chapitre 2, verset 1.
Mes enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste.
lorsqu'il est considéré d'une manière abstraite, il ne pratique pas l'iniquité. Il ne le peut pas parce qu'il est né de Dieu. Quelle affirmation merveilleuse et parfaite! Telle est notre nature comme étant engendrée de Dieu. Actuellement, ce fait est souvent obscurci parce que la chair est toujours en nous et que nous lui laissons de la place. Mais lorsque nous serons avec le Seigneur et comme lui, le voyant comme il est, la chair aura disparu pour toujours. Alors, il n'y aura pas de restrictions à faire. Le fait sera absolu et non seulement abstrait. Lorsque nous serons glorifiés avec Christ, non seulement nous ne pécherons plus, mais nous ne pourrons absolument plus pécher. Nous ne pourrons pas plus pécher que lui ne le peut. Celui qui désire un éclaircissement complémentaire peut comparer les versets 7 et 8 de Romains 8 avec notre passage.
La pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu.
Dans ces versets, la chair est considérée dans sa nature abstraite, et c'est précisément l'opposé de ce que nous trouvons ici. Elle est essentiellement inique et complètement opposée à Dieu et à sa nature. Au verset 10, nous trouvons un autre trait des véritables enfants de Dieu. Non seulement ils pratiquent la justice, mais ils sont aussi caractérisés par l'amour. D'autres passages nous montrent que l'amour doit marquer nos relations avec le monde. Ici, il s'agit de l'amour envers nos frères, c'est-à-dire envers tous ceux qui, comme nous, sont nés de Dieu. Ainsi, ceux qui tirent leur origine de Dieu et ceux qui la tirent du diable sont clairement différenciés par deux choses. Les uns ont la justice et l'amour, les autres n'ont ni l'un ni l'autre. L'amour et la justice sont intimement liés bien que distincts. L'amour est entièrement une affaire de nature. Nous trouvons dans l'Écriture que Dieu est amour, mais nous ne trouvons nulle part que Dieu soit justice. L'amour est ce qu'il est en lui-même. La justice est l'expression de sa relation avec tous ceux qui sont autour de lui. Nous sommes nés de lui. Ainsi, d'une part, nous manifestons sa nature, et d'autre part, nous agissons comme lui agit. Chez un enfant de Dieu, l'amour doit nécessairement se déverser envers tous les autres enfants. C'est l'amour de la famille de Dieu. Le commandement de s'aimer l'un l'autre n'était pas nouveau. Il avait été donné depuis le commencement. Dès le début, l'amour avait été enjoint. Voyez de quelle façon pressante le Seigneur l'avait demandé en Jean 13, versets 34 et 35.
« Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. »
La haine qui caractérise le monde, ce qui tire leur caractère du diable et de son mensonge, est aussi une chose très ancienne. Cela remonte au début de l'activité du diable parmi les hommes. Dès qu'apparut sur la terre un homme conçu dans le péché, portant ainsi la marque du diable, ce trait a été vu en lui. Cet homme, c'était Caïn. Alors, la haine qui est caractéristique de la famille du diable s'est déployée dans toute sa force et il a tué son frère. Il n'y avait pas d'amour en lui, mais de la haine. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de justice, mais l'iniquité. Le tableau est complet. Caïn de la famille du diable était un homme inique, et ce qui en est résulté, c'est qu'il a haï et tué son frère. Comme étant né de Dieu, l'amour est notre propre nature, et nous sommes laissés ici-bas pour pratiquer aussi la justice. En aimant notre frère et en pratiquant la justice, nous manifestons pleinement que nous sommes enfants de Dieu. Que ceci soit toujours plus pleinement manifesté en nous. Chaque chose créée se reproduit selon son espèce. Ce fait est répété plus de 10 fois en Genèse 1. Dans notre chapitre, nous trouvons que la même loi est valable pour les choses spirituelles. Ceux qui sont nés de Dieu sont caractérisés par l'amour et la justice. Les enfants du diable sont caractérisés par la haine et l'iniquité, simplement parce qu'ils sont de son espèce. Les deux familles sont clairement manifestées en cela, et elles sont en contraste complet l'une avec l'autre. Il n'y a donc rien de surprenant si le croyant est confronté à la haine du monde. Le monde, ici, n'est pas le système du monde. Celui-ci ne peut pas haïr, mais les personnes dominées par le système du monde. L'enfant de Dieu ne les hait pas. Comment le pourra-t-il, puisque c'est sa nature même d'aimer? Le monde hait le croyant pour la même raison que celui qui fait le mal hait la lumière, et pour la même raison que Caïn haïssait Abel. Il nous faut confesser avec tristesse que, très souvent, nous sommes surpris d'être haïs, mais c'est insensé de notre part. C'est à cela que nous devons nous attendre en raison de la nature même des choses. Le chrétien ne hait pas, il aime. Le chrétien ne hait pas, il aime. Mais le verset 14 ne dit pas, par contraste avec ce que fait le monde, que nous aimons celui-ci. Si c'était le cas, il y aurait conflit avec le verset 15 du chapitre précédent. Il est vrai que nous devons être caractérisés par l'amour envers tous les hommes, ainsi que Romains 13, versets 8 à 10 le montre.
Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Car ce qui est dit, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement qu'il puisse y avoir, est résumé dans cette parole-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour donc est la somme de la loi.
Mais ce qui est dit ici est que nous aimons les frères, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de Dieu. L'amour est la vie même de la famille de Dieu. Comment passe-t-on de la mort à la vie? Une réponse à cette question nous est donnée en Jean 5, verset 24.
En vérité, je vous dis, que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
C'est en entendant la parole de Christ et en croyant celui qui l'a envoyé. Dans le passage qui est devant nous, la réponse est de toute évidence. En étant engendré de Dieu, le contexte le montre clairement. Si nous comparons ces deux passages, nous voyons d'une part notre côté et d'autre part le côté de Dieu. Quant à déterminer clairement comment ces deux aspects se combinent, c'est bien évidemment au-delà de notre portée. La manière exacte, selon laquelle le divin et l'humain s'unissent, nous dépassera toujours, que ce soit en Christ lui-même, dans l'Écriture sainte, ou partout ailleurs. Mais le fait demeure que nous avons passé de la mort à la vie, et la preuve en est que nous aimons les frères, car l'amour est le caractère de la famille, comme il l'est du Père lui-même. Ici, l'apôtre Jean confirme les déclarations de grande portée faite par l'apôtre Paul au sujet de l'amour, dans les premiers versets de 1 Corinthiens 13. Jean nous dit que si l'un d'entre nous n'aime pas son frère, il demeure dans la mort, quelles que puissent être d'autres apparences. Paul nous dit qu'en dépit de tout ce que nous pouvons sembler posséder, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Nous ne comptons simplement pour rien dans tout ce que Dieu peut reconnaître. Le verset 15 déclare la chose de manière encore plus forte. À cet égard, nous ne pouvons pas être neutres. Si nous n'aimons pas notre frère, nous le haïssons, et celui qui hait est un meurtrier en puissance. Caïn était un véritable meurtrier, mais en Matthieu 5, versets 21 et 22, le Seigneur Jésus met en évidence non l'acte de meurtre, mais la colère et la haine qui l'entraînent.
Vous avez ouï qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, et quiconque tuera sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement, et quiconque dira à son frère Raca sera passible du jugement du Sanhédrin, et quiconque dira fou sera passible de la géhenne de feu.
C'est également ce que fait notre passage. Celui qui est dominé par un esprit de haine est dominé par l'esprit de meurtre. Une telle personne ne peut pas posséder la vie éternelle. Comme nous l'avons vu, la vie éternelle nous appartient comme demeurant dans le Fils et dans le Père. Chapitre 2, versets 24 et 25. Parce que nous demeurons en lui, la vie éternelle demeure en nous, et la nature essentielle de cette vie est l'amour. Mais bien que l'amour ne soit que la simple respiration manifestant la vie que nous possédons, aucun de nous ne la possède comme si nous étions une petite fontaine d'amour se suffisant à elle-même. La manifestation subjective de l'amour en nous ne peut jamais être séparée de sa manifestation objective en Dieu. Ainsi nous devons toujours regarder hors de nous-mêmes si nous voulons vraiment percevoir l'amour comme il est réellement. Par ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous, verset 16. Cela a été la manifestation suprême du vrai amour. Si nous voulons avoir une vue juste de ce qu'est l'amour, nous devons arrêter nos pensées sur l'excellence et la gloire qui sont cachées dans ce « lui », en contraste avec le péché, la dépravation et la misère qui caractérisaient le « nous ». Il est très important que nous le fassions, car c'est seulement ainsi que nous pouvons être rendus capables de faire face à l'obligation qui a été mise sur nous, en conséquence de cette inexprimable faveur. Christ a manifesté l'amour en laissant sa vie pour nous. Le résultat en est que nous vivons de sa vie, qui est une vie d'amour. Une chaîne admirable est placée ainsi devant nous. Il aimait, il a donné sa vie pour nous, nous vivons de sa vie, nous aimons. Et maintenant, voyons l'obligation. Nous devons laisser nos vies pour les frères. L'amour en nous doit aller aussi loin que cela. C'est ce qu'ont fait Prisca et Aquilas envers Paul, puisqu'ils ont pour sa vie exposé leur propre cou. Romains 16, verset 4.
Salut Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre dans le Christ Jésus, qui pour ma vie ont exposé leur propre cou, auquel je ne rends pas grâce moi seul, mais aussi toutes les assemblées des nations.
L'aurait-il fait pour quelques croyants humbles et sans distinction particulière, nous demandons-nous? Il est probable que oui, car ils sont placés en tête de la longue liste des croyants honorés qui sont salués en Romains 16. Quoi qu'il en soit, voilà jusqu'où va l'amour qui est de qualité divine. Si l'amour est appelé à aller aussi loin que cela, à plus forte raison ira-t-il jusqu'à tout autre point situé en deçà. Il y a beaucoup de manières de laisser sa vie pour ses frères, sans que cela implique la mort ou un réel danger de mort. Ceux de la maison de Stéphanas, par exemple, s'étaient voués au service des saints, Corinthiens 16, verset 15.
Or je vous exhorte, frères, vous connaissez la maison de Stéphanas, qu'elle est les prémices de l'Achaïe, et qui se sont voués au service des saints.
Ils n'avaient pas abandonné leur vie pour les frères, mais ils leur avaient consacré leur vie. Ils servaient Christ en servant ses membres sur la terre. Ils manifestaient l'amour d'une manière pratique. L'amour de Dieu demeurait en eux, et il doit demeurer en nous, ainsi que le montre le verset 17. S'il y demeure, il doit nécessairement jaillir au dehors, envers ceux qui sont enfants de Dieu. Dieu n'a aucun besoin auquel nous aurions à pourvoir. Le bétail sur 1000 montagnes serait à sa disposition s'il en avait besoin. Ce sont les enfants de Dieu qui ont des afflictions et des besoins dans ce monde. La manière pratique de montrer notre amour pour Dieu est de prendre soin de ses enfants lorsque nous les voyons dans le besoin. Si nous possédons en suffisance les biens de ce monde et que nous refusons d'avoir compassion de notre frère qui en manque, si nous préférons nous rassasier tout seuls, il est certain que l'amour de Dieu ne demeure pas en nous. Soulignons ici un mot très caractéristique de l'Épître, le verbe « demeurer ». Bien qu'utilisé dans des sens et des contextes assez différents, ce mot répété nous aide à garder en mémoire la continuité de la pensée de l'apôtre. Comme il s'occupe de ce qui est fondamental et essentiel dans la vie et la nature divine, il a nécessairement à parler de choses qui demeurent. Le verset 18 n'est pas adressé à de petits enfants, mais à tous les enfants de Dieu. indépendamment de leur croissance spirituelle. Nous devons tous nous souvenir que l'amour n'est pas un simple sentiment, une affaire de mots affectueux sortant de notre bouche. C'est une affaire d'action et de réalité. Selon le verset 16, l'amour que nous avons connu ne consistait pas simplement en des mots, mais il s'est manifesté par un acte de dévouement suprême. L'amour de Dieu demeurait en Christ, et il a laissé sa vie pour nous. Si l'amour de Dieu demeure en nous, nous exprimerons notre amour envers nos frères par des actes, et non par des paroles seulement. Si nous aimons ainsi en vérité, il sera manifeste que nous sommes de la vérité, verset 19. Nous sommes, pour ainsi dire, engendrés de la vérité, et par conséquent, elle se manifeste elle-même au travers de nos actions. Ainsi, non seulement ceux qui nous entourent sont assurés que nous sommes de la vérité, mais nous acquérons de l'assurance pour nos propres cœurs devant Dieu. Un homme peut acheter un pommier dont on lui a affirmé qu'il est d'une certaine variété. Pour l'en convaincre, on peut lui remettre un certificat signé par l'horticulteur qui a élevé cet arbre. C'est bien, mais une erreur est toujours possible. C'est seulement si, à la saison des fruits, il recueille sur cet arbre des pommes de la bonne variété, qu'il possédera à ce sujet une assurance aussi parfaite que possible. Quand l'amour et la vérité de Dieu portent leurs fruits dans la vie, et cela par des actions, nos cœurs peuvent bien être assurés. Hélas, cette conviction peut manquer. En effet, beaucoup pourraient objecter que de tels fruits désirables leur font souvent défaut. Et c'est justement ce que l'apôtre anticipe dans le verset suivant, verset 20. En considérant ces choses, nos cœurs nous condamnent. Combien solennel alors est le fait que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il sait toutes choses. Solennel et cependant bienheureux. Voyons comment cette certitude a opéré dans le cœur de Simon-Pierre dans le récit de Jean 21. Pierre, qui s'était vanté de son amour pour le Seigneur avec tant d'assurance, a complètement échoué lorsqu'il s'est agi de le mettre en pratique. En effet, il a renié trois fois Jésus, et cela avec serments et imprécations. Alors le Seigneur l'interroge à trois reprises sur le même sujet, en sondant ainsi sa conscience. Au lieu d'avoir de l'assurance, Pierre était condamné par son propre cœur, et pourtant, dans le fond, il savait qu'il aimait vraiment le Seigneur. Si Pierre avait une certaine conscience de son manquement, il n'en voyait pas toute la profondeur, mais le Seigneur qui savait toutes choses, lui, la voyait. Et encore, pour la même raison, il savait également qu'en dépit de ce manquement, un authentique amour était dans ce cœur. Ainsi Pierre dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Il était heureux de se rejeter sur le fait que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il sait toutes choses. Puissions-nous faire comme lui lorsque nous sommes dans une situation semblable. Par contre, il arrive, Dieu soit béni, que nos cœurs ne nous condamnent pas, verset 21, que la vie, l'amour et la vérité de Dieu soient actifs dans nos âmes, s'exprimant de manière pratique. C'est alors que nous avons confiance et hardiesse devant Dieu. Nous avons liberté en sa présence. Nous pouvons lui exposer nos requêtes avec l'assurance qu'il y sera répondu et que nous recevrons au temps convenable ce que nous avons désiré. Au verset 22, l'expression « quoique » nous offre un chèque en blanc, nous laissant le soin de le remplir. Mais le « nous » qui l'accompagne est limité par ce qui suit aussi bien que par ce qui précède. Il s'agit de ceux que leur propre cœur ne condamne pas, de ceux qui gardent les commandements du Seigneur et qui pratiquent les choses qui sont agréables devant lui. C'est à eux que peut être confié le chèque en blanc. Les croyants qui aiment en action et non pas seulement en parole sont marqués par cette obéissance qui plaît tant à Dieu. Celui qui est caractérisé par l'amour et l'obéissance aura ses pensées et ses désirs en harmonie avec ceux de Dieu. Ainsi, ce qu'il demandera sera selon sa volonté, et par conséquent, il recevra les choses qu'il désire. Nous gardons ces commandements, mais il y a un commandement qui ressort de manière particulière. Il a pour objet deux choses, la foi et l'amour, verset 23. Nous devons croire au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, puis nous aimer l'un l'autre ainsi qu'il l'a commandé à ses disciples, notamment en Jean 13, versets 34 et 35.
Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous.
Nous reconnaissons ici deux choses qui sont très souvent mentionnées ensemble dans les Épîtres. Paul n'était pas allé à Colosse, mais il rendait grâce à Dieu à leur sujet. « Ayant ouï parler de votre foi dans le Christ Jésus, dit-il, et de l'amour que vous avez pour tous les saints, Colossiens 1, verset 4. » Ces deux choses bien connues sont la preuve d'une conversion réelle, l'évidence d'un authentique travail de Dieu. Ce qui nous est peut-être moins familier, c'est que la foi et l'amour soient considérés comme des commandements. Il vaut la peine de noter soigneusement que, de tous les apôtres, Jean est celui qui met le plus d'emphase sur les commandements qui sont donnés aux chrétiens. Il a écrit alors que les autres apôtres s'en étaient allés et que la tendance à transformer la grâce en permissivité s'accentuait. De là, nous le croyons, cette insistance particulière. Il n'y a aucun commandement de loi à pratiquer pour établir notre justice devant Dieu, mais il y a des commandements malgré tout. Le but de ce que Jean nous déclare dans son épître est que nous puissions être introduits dans la communion avec Dieu. Si nous entrons dans cette communion, nous découvrirons bientôt les commandements, et il n'y a rien d'incompatible entre les deux. Ils sont entièrement en accord, car ce n'est que par l'obéissance aux commandements que la communion peut être goûtée et maintenue. Ceci est mis en relief au verset 24, où nous trouvons que c'est le croyant marchant dans l'obéissance qui demeure en Christ. À la fin du chapitre précédent, les enfants, tous ceux qui composent la famille de Dieu, sont exhortés à demeurer en lui, c'est là ce qui conduit à une vie chrétienne vraie et fructueuse. Ici, nous voyons que le fait de demeurer dépend de l'obéissance. Les deux choses vont ensemble, agissant et réagissant l'une sur l'autre. Celui qui demeure obéit, mais il est également vrai que celui qui obéit demeure. Mais l'obéissance mène à ce que lui demeure en nous, et non seulement à ce que nous demeurions en lui. Si nous demeurons en lui, nous tirons nécessairement de lui toutes les sources de notre vie spirituelle. Et comme notre vie pratique procède ainsi de lui, c'est sa vie qui vient se manifester en nous, et il est vu comme demeurant en nous. Ici, nous croyons que Jean pose comme principe ce que Paul déclare être sa propre expérience en Galates 2, verset 20.
« Je suis crucifié avec Christ. » Et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi, et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
C'était parce qu'il vivait dans la foi au Fils de Dieu qu'il pouvait dire « Christ vit en moi ». Par l'Esprit qui nous a été donné, nous savons que Christ demeure en nous, verset 24. L'Esprit est l'énergie de la vie nouvelle que nous avons en Christ. Et d'autres passages le désignent expressément comme l'Esprit de Christ. Ceux qui nous entourent peuvent savoir que Christ demeure en nous en observant quelques traits de son caractère manifestés à travers nous. Quant à nous, nous le savons par son Esprit qui nous a été donné. Au chapitre 2, il est parlé du Saint-Esprit comme étant l'onction, donnant même aux petits-enfants une capacité qui leur permet de connaître la vérité. Mais ici, il est présenté comme l'agent par lequel Christ demeure en nous, afin que nous puissions le manifester ici-bas. L'Esprit était aussi là afin de donner expression à la parole de Dieu. C'est ce qu'il a fait au commencement par le moyen des apôtres et des prophètes qu'il a inspirés. Il est la puissance par laquelle la parole de Dieu est donnée, aussi bien que la puissance par laquelle elle est reçue. Ce fait fournissait aux antichrists un point d'attaque. Les antichrists de cette époque étaient les gnostiques, mot qui signifie « ceux qui savent ». Eux aussi parlaient par une puissance qui était manifestement celle d'un esprit. Ils prétendaient savoir et mettaient en avant leurs idées, en opposition avec ce qui avait été révélé par les apôtres. C'est pour cette raison que Jean s'écarte un peu de son thème principal au début du chapitre 4. Cette digression était importante à l'époque et elle ne l'est pas moins aujourd'hui, comme nous allons le voir.